Voilà, depuis le mois d'août, nous sommes dans un livre qui nous a interpellés, le livre de Job. Et ce matin, donc, nous avons rencontré Monsieur Job à plusieurs étapes de sa vie, mais ce matin, on a intitulé le message « Question pour un champion ». Question pour un champion. Job, c'est le champion de Dieu. Job, c'est celui, moi, et maintenant, lui, il se place dans la tête, il a dit, moi, Dieu, je vais l'interroger, et il a intérêt à répondre. Nous allons voir ce matin que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. On a souvent des questions, n'est-ce pas? Ou alors, on se sent tellement fort qu'on dit, pose-moi n'importe quelle question, et tu vas voir, je suis capable de répondre. Je connais... Dieu a la réponse à tout. On a déjà vu la semaine dernière que M. Job avait posé trois questions, qu'il n'avait pas eu franchement la réponse. Et aujourd'hui, Dieu va lui poser des questions, il va sortir de son carton quatre informations. Il dit à Job, M. Job, on va parler de cosmologie. On va parler d'océanographie. On va parler de météorologie. Et enfin, on va parler d'astronomie. Et là, M. Job, il fait, bon, attendez, passez-moi un dictionnaire. Cosmologie, les lois qui régissent le monde terrestre. L'océanographie, qu'est-ce qui se passe dans les océans, dans les mers? La météorologie, comment définir la pluie, la grêle, l'astronomie, comment regarder tous ces astres, comment ça fonctionne? Alors, petit rappel pour notre champion, il a des ennemis, Monsieur Job. C'est un mot qu'on a inventé, faut pas le répéter partout, il n'a droit qu'au 177. Les ennemis, c'est les amis personnels de Monsieur Job qui agissent comme des ennemis. Alors, c'est pas ses vrais ennemis, c'est ses ennemis. Ils sont moitié-moitié. Job a des amis qui font le deuil avec lui. Vous vous rappelez? Après le chapitre 1, chapitre 2, où il fait de la résistance, on lui a remis la croix de la résistance. Il résiste au diable. Et là, ses amis viennent et disent, écoute, maintenant tu vas mourir. Il n'a plus que la peau sur les os. Il est recouvert d'un ulcère, voilà, merci. Ils lui disent, tu vas mourir. Alors pendant 7 jours, ils font silence. Ils attendent. À chaque instant, sa mort. Mais malheureusement, il retrouve la parole. Et Monsieur Eliphaz, qui est un grand philosophe, dit « Job, j'ai observé et je suggère que tu es un insensé. » Merci. « Tu récoltes de toute façon ce que tu as semé. » Alors, arrête de te plaindre. Et puis, Monsieur Bildad, alors lui, c'est le prof d'histoire, il suppose, il suggère pas, il suppose. Il dit, non seulement tes enfants ont péché, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont morts, mais en plus, tu es un gros hypocrite. Monsieur Tsophar, le plus jeune des trois, arrive, et alors lui, il dit, bon alors moi, j'irai pas par quatre chemins, tu dis que tu es bien, tu dis que tu es droit, tu dis que tu es juste, mais regarde ce qui t'arrive, et alors je vais te dire, il dit ça au chapitre 11, verset 6, si tu étais si bien que ça, alors, pourquoi Dieu te punirait? Ou alors je vais suggérer quelque chose, si c'est pas de ta faute, c'est la faute de Dieu. Et là, ça commence à rentrer dans la tête à M. Job. Cet homme droit, juste, qui a béni le nom de l'Éternel malgré les malheurs. Et il va commencer à se plaindre. Et puis, quand il va demander plusieurs fois à ses amis de faire silence, il va finir par dire que finalement, il aimerait bien rencontrer Dieu parce que maintenant, il est à peu près sûr que c'est la faute à Dieu. Mais sur sa route... Il y aura un quatrième ami qui, lui, le texte, dans son introduction, nous le montre en colère. Il est en colère après les trois amis qui le jugent sans rémission. Il est en colère après Job qui dit finalement « Je suis juste Dieu et pas juste ». Il s'appelle Eliou, suivant vos traductions, et il s'intéresse, lui, à autre chose que au problème de Job, il s'intéresse à Dieu, parce qu'il dit « Écoute Job, t'as demandé un rendez-vous avec Dieu, tu ferais mieux de te préparer. Tu ferais mieux de te préparer, et alors si tu vas avec cet état d'esprit-là, à mon avis, tu vas te faire recaler. » Et j'avais appelé la semaine dernière le message « Eliou, le préparateur ». Eliou qui s'intéresse à Dieu plus qu'à autre chose. Le péché de Job n'est pas de savoir pourquoi il souffre. On a le droit de demander pourquoi. Mais plutôt de blâmer Dieu pour ce qui lui arrive. Eliou veut ouvrir les yeux et le protéger parce qu'il sait qu'un jour il va rencontrer Dieu. Nous sommes là pour aider ceux qui souffrent sans comprendre. Et on ne va pas forcément comprendre pourquoi ils souffrent. Et les trois amis n'ont pas compris. Alors, avec toute sa détermination, Monsieur Job veut avoir des réponses. Il a dit dans le chapitre 13, verset 22, en s'adressant à Dieu, « Réponds-moi si je t'appelle ». Il a dit au chapitre 9, verset 33, tout ça c'est sur le site, vous pourrez regarder, « Je veux un arbitre ». Chapitre 16, il a dit « J'en appelle à mon témoin ». Chapitre 31, « Que le Tout-Puissant me réponde ». Mais Job veut une écoute légale. Il veut prouver, Job dans sa détermination, malgré les conseils, il veut prouver l'illégalité, l'injustice à son égard. Mais au lieu de répondre aux charges qui pèsent contre lui, contre sa peine injuste, Dieu va poser 77 questions. Et dans son entretien, dans son questionnement, Dieu va parler de la création. La création inanimée et la création animale. Puisque tu veux qu'on discute, on va discuter. Il va parler partir des constellations, de ce nombre inimaginable d'étoiles au ciel, pour aller jusqu'à la motte de terre. Et c'est intéressant parce que quand on regarde l'espace, on se dit c'est tellement magique. Et de savoir que nous sommes poussière et que nous retournerons poussière. Il va parler de l'hippopotame, jusqu'à l'insecte. Il va parler des merveilles de la création divine qui sont répandues dans l'espace, dans le ciel, sur la terre. Et on verra tout à l'heure que Job n'avait pas préparé l'entretien de cette façon. Et aujourd'hui, on ira jusqu'à sa première interrogation, ou sa première capitulation, son Gergovie. Non, c'est pas Gergovie, c'est Alésia. Donc tout d'abord, Dieu va l'amener sur la création de la terre. Et il va en parler comme une construction, comme un immeuble. Il va le dire à Job, regarde cette création. Mais regardez bien un petit détail qui peut passer inaperçu et qui est intéressant. C'est que pour s'y prendre, pour que Job écoute, il va lui faire passer par une petite épreuve qui peut, si on ne la regarde pas, vous ouvrez vos Bibles dans Job chapitre 38. Et on va prendre le verset 1. Job 38:1, il est dit, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. C'est intéressant. On voit Eliu discuter avec lui, le préparer, et d'un seul coup, la tempête arrive. Et là, Job, il se remémore quelque chose qui s'est passé au début de l'histoire. Quand il a perdu ses enfants. Ses enfants ont disparu un jour de tempête. Un jour de grand vent. Quand on vient lui faire le rapport, on lui dit, il y a une grande tempête qui est arrivée, ça a tout emporté, tes enfants sont morts. Et là, Job, oh, tempête, je vais mourir. Mais cette tempête va alerter Job. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Prends, qu'est-ce qu'il est dit ? S'interrin comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est pas allonge-toi sur le canapé, il faut que je te raconte une histoire. C'est pas écoute si tu peux, prends des notes. C'est tiens-toi debout, alerte, prêt à combattre. Et écoute ce que j'ai à te dire. Vous avez vu l'introduction ? Je trouve que notre Dieu a tellement de moyens extraordinaires pour nous mettre en alerte. Pas répondre. Dans ces versets 4 à 6, regardez bien. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le ! Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau pour que ça soit bien aligné ? Qui a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui a posé la pierre angulaire ? Et vous rappelez, qui est la pierre angulaire ? Jésus. Dieu est un maître d'œuvre extraordinaire, un architecte, un designer, un chef d'entreprise qui bâtit la chose la plus extraordinaire et la première chose la plus extraordinaire qu'il a créée avant l'être humain. C'est notre terre. C'est notre terre. Regardez le psaume 19, mes amis. Le psaume 19, vous le connaissez presque par cœur, je suis sûr. Psaume 19, non, ça vous dit rien ? Vous allez tourner la page, ah bah oui, on le connaît. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente sous le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux. Il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Les cieux, la création, racontent la gloire de Dieu. Dieu met Job face à quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il a créé. Est-ce que tu es capable de faire la même chose ? Est-ce que tu es capable de faire la même chose ? Sais-tu ? Ensuite, après lui avoir fait regarder la terre, Dieu va lui faire lever la tête. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer ? Regarde le ciel ! Est-ce que tu peux le voir ? Est-ce que tu vois ces créations que j'ai mises autour de toi ? Ces choses qui sont tellement belles. On en voit une toute petite partie, mes amis. Une toute petite partie. Et là, j'en ai mis juste trois aspects. C'est la Hubble qui nous a donné ces belles photos. Mais allez sur un site, regardez mes amis. On ne peut être qu'émerveillé quand on regarde la création de Dieu. La terre, c'est lui qui l'a créée. Les cieux, les astres, le soleil, la lune. C'est Dieu qui nous l'a donné pour nous chauffer. Imaginez qu'il y ait une panne de chauffage. C'est-à-dire que le soleil s'éteigne. Mes amis, il va falloir acheter des couvertures. Parce que ça va faire froid. Et la lune ne pourra pas envoyer sa lumière. Dieu est en train d'interroger. Job, de lui dire, regarde, tiens-toi prêt, parce qu'une fois que je vais t'avoir dit ces choses, tu auras des choses à faire. Dans 1 Roi 19, Dieu dit à Élie, je vais passer devant toi. Et dans les versets 11 à 13, Dieu se trouve dans un bruit, dans un murmure doux et léger. Mais avant, il y a la tempête. Et Dieu n'est pas dans cette tempête. Dans Exode 12, verset 11, Dieu parle au peuple, il dit, aujourd'hui vous allez célébrer la Pâque. Mais c'est avant votre délivrance. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que à chaque fois que Dieu crée un événement, il y a un objectif, c'est de délivrer. Et là, Monsieur Job, il est devenu amer, triste, orgueilleux. J'étais bien. Et Dieu lui montre sa création et lui dit, et qu'est-ce que tu peux faire? Ou qu'est-ce que tu as fait dans tout cela? Ensuite, Dieu va lui parler de ces magnifiques, de ce ciel magnifique. Et là, on a Pulsar. Pulsar, c'est ces astres qui, toutes les minutes, émettent un son. Et on regarde que dans cette création magique, Dieu a mis tous les éléments pour que cette terre fonctionne, pour qu'elle soit illuminée, pour que, en fait, la main de Dieu rayonne. Il va ensuite lui parler de la mer. Il va lui poser des questions. Alors, je suis un peu perdu dans mes feuilles, voilà. Il va lui demander de considérer la mer. Qui a séparé la mer? Vous imaginez? Et on ne sait pas pendant combien de temps que l'eau avait pris possession de la terre. Vous imaginez? Une terre sans terre. Une terre à l'eau. Le problème, c'est qu'il n'y aurait même pas de plage parce qu'il n'y aurait pas de terre. Vous n'avez jamais pensé à ça? Moi, j'aime bien de temps en temps trouver des choses comme ça qui nous font sauter la tête en disant, hein, c'est comme le serpent avec des pattes. Hein. Mais il avait des pattes, forcément, parce qu'il a dit, à partir de là, tu marcheras sur ton ventre. Donc on suppose qu'avant, il avait... C'est des questions qu'on ne se pose pas quand on fait la lecture, comme ça, on dit, voilà, Dieu. Mais là, Dieu, quand il a créé, il y a de l'eau partout, il fait, hop, hop, hop. Et je vais les mettre où, moi, mes bonhommes, là? Il dit à Job, t'étais là quand j'ai séparé la terre et l'eau? Quand j'ai fait rejaillir 30% de la couverture de la planète pour vous y installer. Il va ensuite, dans les versets 12 à 15, il va lui parler de la lumière. Vous avez regardé la lumière divine? Là, j'ai trouvé cette magnifique image du lever du soleil. Vous êtes là au lever du soleil? Vous avez déjà regardé un lever de soleil? Ah, mes amis. Quand nous visitions nos amis en Arizona, le privilège de cet homme, c'était de m'emmener voir le lever du soleil. Mais alors le problème, c'est que pour aller voir le lever du soleil, il fallait déjà aller au pied d'une certaine montagne, faire une heure de grimpette à 23%, et arriver en haut, si on était encore vivant, on pouvait voir monter le soleil. Et vous savez comment il me faisait monter? Il me disait, rate-toi parce qu'on va, dépêche-toi parce qu'on va rater le lever. Et je vais mourir avant le lever, moi. Mais mes amis, voir le lever du soleil, c'est remercier Dieu que sur cette planète, il a pourvu à son lever et il a pourvu à son coucher. Est-ce qu'un homme peut fabriquer ces choses? Est-ce qu'un homme peut organiser devant Dieu? Et alors, Dieu va lui faire regarder, regarde l'eau. Tu sais, Job, au plus profond de la mer, tu peux aller jusqu'où? Tu peux nager jusqu'à quelle distance? En apnée. Tu sais qu'au plus profond, tu peux aller jusqu'à 14 kilomètres. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits sur cette planète Terre où le fond de la mer se trouve à 14 kilomètres. Il y a un seul endroit. On ne peut pas imaginer dans notre tête d'homme. Et là, ce champion de Dieu, qui a résisté, qui a béni le nom de l'Éternel, je l'imagine à chaque question descendre un petit peu plus. Après chaque question, de dire quelle va être la prochaine? Quelle va être la prochaine? La prochaine, il va en parler, il va dire au chapitre 38, versets 19 à 20, la lumière, les états. Il va même lui parler d'un placard, ça j'ai trouvé intéressant, d'un placard où il met en réserve la grêle et la neige. Le dépôt. Dieu a un dépôt et de temps en temps il ouvre le dépôt et dit bon, faut vider un peu. On a trop cumulé. Vous imaginez, quand on regarde cette construction terrestre, comme une construction, on se dit mais c'est vraiment incroyable au détail que Dieu a mis sur cette terre pour mon bien. Dieu a fait tout ça, mes amis, pour notre bien, pas pour son bien. Ça lui donne du travail à notre Dieu. En fait, s'il avait laissé que de l'eau, il aurait été tranquille. Il n'aurait pas eu à gérer nos problèmes. J'ai un collègue qui m'a dit au téléphone il n'y a pas longtemps, on parlait de problèmes qu'on a dans nos églises, enfin très peu, n'est-ce pas? Et alors il me dit, oh les églises, ça serait tellement bien s'il n'y avait pas les gens. J'ai dit, ouais, mais t'imagines, on serait au chômage. Il me dit, ouais, mais qu'est-ce que ça serait cool. Mais Dieu nous a créés pour nous aimer, mes amis, et pour qu'on s'aime. Mais quand on voit ce que Dieu est capable de faire, c'est incroyable, non? Alors, de l'inanimé, si j'ose dire, Dieu maintenant le transporte à l'animé. Et alors, ce que j'ai trouvé aussi là très intéressant, c'est que tout d'abord, il l'amène devant, il lui parle du premier animal auquel il pense, qui est le lion. Il l'amène devant le lion. Il lui dit au chapitre 39, « Apaises-tu, chasses-tu la proie pour la lionne, apaises-tu la faim des lionceaux ?» Je ne sais pas si vous avez déjà croisé un lion à Vigneux. Mais si vous en croisez un en dehors de la banque qui porte son effigie, ça risque, la rencontre risque d'être difficile. Si vous voulez lui donner un petit poisson, un petit morceau de pain, en lui disant « Tiens, mon petit, mange !» Vous aurez des problèmes, n'est-ce pas? Et là, moi je trouve assez surprenant, le Seigneur il dit « Chasses-tu la proie pour la lionne ?» Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, et là, ils passent ensuite, je crois que j'ai confondu les images, mais bon, peu importe, il va parler ensuite du corbeau. Je crois que l'image, elle est après, voilà. Non, je crois que j'ai pas trouvé. Voilà. Bref. Il va parler ensuite du lion au corbeau. Et là, dans la tête de Job, il fait, oula, grande taille, petite taille. Et lui dit, qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu? Quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont tous errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture. Elles sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur, ils grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met le cheval en liberté? L'âne sauvage? Le buffle? Regarde tous ces animaux. Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Et vous avez vu, les petits du corbeau, ils crient vers Dieu. Dieu a créé une création et il en prend soin. Tout comme de l'homme, mes amis. Même s'il nous a mis responsables, gérants, co-gérants de son entreprise, il va parler de l'aigle, le roi du ciel, celui qui domine sur les oiseaux, parce que c'est celui qui vole le plus haut, qui a la piquée la plus rapide. Le lion, l'hippopotame, l'aigle, tu les maîtrises, Job? Tu es capable de décider pour eux? Tu es capable d'être là quand ils vont accoucher? Mettre bas? Et l'autruche? Il va même parler de l'autruche. Vous avez essayé de donner à manger à une autruche? Qui l'a déjà fait? Attention les mains. Si vous allez dans l'Allier, il y a un parc où il y a des autruches. Ne leur donnez pas à manger. D'abord, c'est écrit sur les panneaux. Parce que même si c'est Dieu qui a créé l'autruche, je peux vous dire, je vais peut-être regretter ce que je vais dire, mais qu'une autruche, c'est bête. Donc ça a un nez pointu comme ça, donc si vous mettez votre main comme ça, avec un morceau de pain ici, vous allez avoir un trou dans la main. Parce que l'autruche, elle ne va pas chercher à mettre sa tête sur le côté en disant « Oh, je ne vais pas lui faire mal !» Elle va piquer dedans. La création divine. Le ciel. Job, est-ce que tu peux faire ces choses? Est-ce que tu peux mettre en place un plan? Job est incapable de donner la nourriture au lion. Job ne peut pas prévoir quand les animaux vont mettre bas. Job ne peut pas contrôler l'âne sauvage, ni le buffle. Il ne peut pas rendre sage l'autruche. J'ai essayé. Il ne peut pas contrôler la force du cheval. Il ne peut pas donner des ordres à l'épervier ni à l'aigle. Alors, Job reconnaît là, je sais que je ne peux rien. Je sais que je ne peux rien faire. Job répondit au chapitre 39, verset 36. Voici, je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois. Je n'ajouterai rien. Mes amis, Job, ce champion de Dieu, qu'on peut louer dans les deux premiers chapitres. On peut se dire, quel résistant! Arrivé au chapitre 37, après toutes les attaques de ses ennemis, toutes les exhortations un peu de travers, même son épouse, qui voulait l'engager à faire ce que le diable voulait, Dieu réalise, Job réalise que Dieu utilise sa création. Et ce qu'il a retenu à l'école de Dieu dans son question pour un champion, c'est que Dieu utilise sa création pour limiter les méchants. Au verset 15. Pour contrôler les guerres et les batailles. Pour arroser la terre. Pour poser les limites. Pour réguler les jours. Pour pouvoir pourvoir pour les animaux. Pour préparer la nourriture des animaux. Pour les rendre libres. Et enfin, pour les fortifier. On a du mal à respecter ce que Dieu fait. À comprendre pourquoi, notre question pourquoi, c'est toujours pourquoi moi. Mais pourquoi tu as fait ces choses? Job aurait pu changer son attitude et dire, Seigneur, pourquoi as-tu créé ces choses? Plutôt que ça, il était prêt à lui demander des comptes sur sa situation, sur sa position. La création de Dieu, tant inanimée qu'animée, est bien ordonnée. Dieu pourvoit pour cette création et il l'entretient. Si Job avait eu cette attitude au début, je présume que la leçon avec Dieu aurait été plus simple. Nous avons des reproches, n'est-ce pas, à l'égard de Dieu. On attend trop longtemps. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas respecté ses engagements, ses promesses. Dieu n'a pas... On en a une liste, hein? Ah, si Dieu! Je vous ai déjà raconté cette histoire, hein, d'un pasteur qui s'était mélangé un peu dans son histoire. Et qui, en voulant partager les miracles que Jésus a fait, quand il a dit que Jésus, avec 5 pains et 5 poissons, avait nourri 3000 personnes, en fait, il a dit, le Seigneur Jésus, avec 5000 pains et 5000 poissons, a nourri 3000 personnes. Alors évidemment, il y en a un dans la salle, il a levé la main, il a dit, moi je fais la même chose. Alors le pasteur, il a réfléchi dans la semaine, il a dit, il faut que je le coince lui. Alors le dimanche d'après, il a repris la même histoire, mais en donnant les bons chiffres. Et là, il a regardé la salle, il a vu le monsieur au fond, il fait, alors là, vous faites toujours la même chose? Bah, il dit oui avec les restes de la semaine dernière. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu. Et Job a pris la grande leçon. Il est le champion de Dieu. Il est protégé, il est entouré. Vous vous rappelez, il a dit au diable, tu ne touches pas à sa vie. Et je suis sûr qu'il tiendra Job. Est-ce que nous avons des questions à poser à Dieu? Nous avons dit depuis le début ceci. Quand quelqu'un souffre, comme Job, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin de grâce, mais pas de jugement. On a vu qu'il avait besoin d'amour, mais pas d'un rappel à la loi. On a vu plusieurs fois qu'il avait besoin de miséricorde, mais pas de misère. On a vu qu'il n'avait pas besoin d'un doigt accusateur, mais qu'il avait besoin de deux bras pour le réconforter. On a vu que Élihu, dans sa préparation, avait voulu préparer Job à une chose, à lui dire que seul Dieu pouvait transformer sa mésaventure en message. Que seul Dieu pouvait transformer ce test de sa foi en témoignage. On a vu que Élihu avait voulu préparer pour lui dire que seul Dieu pouvait transformer cette tribulation en triomphe. Et il avait voulu le préparer, de le transformer de victime en victorieux. Mais il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. C'est pour ça que Dieu l'a mis devant sa création. Et vous avez vu, Dieu ne parle pas dans sa création de l'homme. Mais il place sa créature, celle dont il a dit que cela était très bon. Très bon. Dieu a dit que cela était très bon, l'homme et la femme. Et il lui dit, il a un message pour lui. Il lui dit, arrête de te plaindre. Fais silence. Regarde. Fais silence. Fais silence dans ton cœur, fais silence dans tes pensées. Pose-toi. Le psaume 46, verset 10 dit, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. On doute, n'est-ce pas? C'est le diable qui est en train de gagner. C'est le monde qui triomphe. C'est l'ennemi. Le Seigneur est dans son temple sacré, silence devant lui. Toute la terre. C'est Habacuc, chapitre 2, verset 20. Silence. Faites silence. Ah, si Job avait pu arriver dans une autre attitude. Pourtant, Élihu l'avait préparé, mais il a fallu que Dieu le prépare. Tiens-toi prêt à la réponse. Tu n'as pas prévu ce genre de réponse. Avons-nous des questions à poser à Dieu? Sommes-nous découragés au point de dire « Ah, si Dieu était en face de moi !»« Ah, je veux un entretien !» Je veux un entretien avec le grand patron. Job l'a voulu. Job l'a eu. Dieu aurait pu dire, Job, mais c'est la dernière de mes préoccupations. Job a pris en compte le fait que, Dieu a pris en compte que Job voulait lui parler. Et s'il le reprend au début, c'est pour le mettre devant quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes devant la création de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes des créatures de Dieu. Mais il y a une marche encore de devenir ses enfants. Parce que nous avons un médiateur. Parce que nous avons un avocat. Parce que pour nous, le sacrifice a déjà été fait. Parce que pour nous, la dette qui était tellement lourde, qui nous séparait définitivement de Dieu, a été payée. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez réclamé une rencontre avec celui qui vous trouble, avec celui que vous accusez d'être celui qui gêne votre vie? Alors peut-être aujourd'hui. Vous avez l'occasion de venir vers lui. Et peut-être comme Job, il a besoin de mettre devant vous tout ce qu'il a créé pour nous. Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien son nombre est grand. Que Dieu puisse continuer de nous émerveiller et parfois de nous surprendre. Quand dans notre cœur s'immiscent ces questions, s'immisce cette rébellion, s'immisce ce fait d'être en colère contre notre Dieu, parce que notre volonté n'est pas accomplie. Mais comme dans la prière du Matthieu 6, que ta volonté soit faite. Seigneur Jésus, tu es celui qui, dans sa grande mansuétude, a accepté de mourir à la croix. À ma place. J'étais ennemi, j'étais ton adversaire, je te voulais du mal, je voulais des comptes, je voulais des explications. Mais en guise de réponse, tu as donné ta vie. Seigneur Jésus, je ne peux que m'incliner, que reconnaître comme Job, que je suis insignifiant, mais combien tellement important à tes yeux, au point que tu es mort à ma place. Seigneur, écrase notre orgueil, éteins notre amertume, contrôle notre rébellion, pour que nous puissions te voir. Ouvre en grand les yeux de notre cœur, afin qu'on y voie ta grandeur, ta majesté. Que nous puissions ensemble chanter des louanges à celui qui est si bon, à celui qui marche devant moi, à celui qui me garantit d'être avec moi jour après jour, jusqu'au jour merveilleux où je pourrai te rencontrer face à face. Jusqu'au jour merveilleux où tous les sauvés de la terre entière et de tous les temps pourront s'incliner devant toi. Seigneur Jésus, tu connais la communauté de Vigneux parce que c'est toi qui en es le chef, parce que c'est ton église, parce que chaque personne qui en franchit cette porte, c'est toi qui l'a amenée. Et Seigneur, ce matin, je veux te remettre peut-être ceux qui ont des questions. Ceux qui voudraient, comme Job, cet entretien parce qu'ils ne comprennent pas. Oh Seigneur, parle à leur cœur. Si quelqu'un ce matin veut juste faire comme Job, reconnaître que nous sommes si peu mais tellement importants à tes yeux. Si ce matin vous voulez déposer les armes, si ce matin vous voulez juste vous laisser étonner par la grandeur de Dieu, alors c'est le jour, la Bible dit, c'est ce jour que Dieu a fait. Aurait-il quelqu'un ce matin qui peut-être a dans son cœur de l'amertume, qui ne comprend plus, ou qui ne comprenait plus, et qui ce matin a peut-être eu un morceau de réponse? Qui ce matin a dit, mais c'est ce Dieu merveilleux qui finalement prend soin de moi. C'est ce Dieu merveilleux qui me permet d'avancer, de tenir bon. C'est ce Dieu merveilleux qui peut me donner la persévérance, l'amour. Est-ce que quelqu'un ce matin, oui, que Dieu vous bénisse ma sœur, qu'il vous donne ses réponses, oui, que Dieu vous bénisse ma sœur, oui. Dieu est un Dieu qui prend soin. Oui, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Un Dieu qui nous aime. Nous ne comprenons pas tout, nous n'avons pas tout le plan. Mais la chose est sûre, c'est que Dieu nous assure qu'il sait, il est avec nous. Et il prend soin de nous. Y aurait-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur, tu vois ces mains qui sont montées vers toi, comme chaque dimanche. Chaque dimanche, Seigneur, tu touches des cœurs. Tu transformes des vies, tu modifies nos compréhensions. Tu le fais avec tes instruments, tu le fais avec ta parole. Alors Père, je te demande de bénir ces amis. De changer radicalement leur cœur. De leur donner cet amour qui vient de toi. S'ils ont besoin de faire silence devant toi, qu'ils le fassent. Mais Seigneur, qu'ils puissent trouver en toi cet appui sûr, cette pierre angulaire qui va transformer leur vie, changer leur vie, et leur permettre de vivre une nouveauté de vie en toi et avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.